80 centimes à 62 euros. Et à Londres, l'once de métal fin progresse de 1,30 $ à 398. Je vous rappelle que le CAC 40 lui perd 1,91% à 3 382 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, et oui, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des plus grandes figures du catholicisme, Saint Dominique.
Personne n'eut plus que Saint Dominique le don des larmes qui s'allie si souvent au fanatisme. Michelet.
D'histoire. Il s'appelait Dominique de Guzman. Il est né à la fin du XIIe siècle dans un village perdu de Castille. Saint Dominique fut avec François d'Assise une des plus grandes figures du catholicisme, à une époque où la richesse de l'Église et la vie dissolue de certains de ses prêtres facilitaient le développement des hérésies. Contre les Vaudois et surtout contre les Cathares, le pape Innocent III mobilisa une croisade dont la violence a profondément marqué l'histoire de l'Occitanie. Mais il sut aussi utiliser un nouvel ordre religieux, les Dominicains. Ces frères prêcheurs, dont le succès fut tel qu'après la mort de leur fondateur, le pape les a chargés d'une institution dont la brutalité a terni pendant des siècles la mémoire de celui qui fut pourtant un des plus grands saints de l'Église catholique.
Frère Dominique avait raison. Pour conquérir les âmes, il faut chasser les démons ville par ville, rue par rue, maison par maison, homme par homme. Nous instituons une sainte inquisition permanente qui sera confiée aux frères dominicains. Seuls ces moines valeureux, forgés dans le combat, sauront traquer, débusquer, extirper l'hérésie. Seuls ces hommes d'exemple feront passer la justice de Dieu.
Le tribunal de la sainte inquisition, devant la preuve avouée de votre hérésie, et constatant avec douleur que vous demeurez dans votre fausse croyance, vous abandonne au bras séculier, à charge pour celui-ci d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos cendres au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon.
Vous êtes l'église du démon ! Du démon !
Michel Roquebert, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écrire chez Perrin un livre sur Saint Dominique. Alors quand on pense à Saint Dominique, on pense bien sûr à l'ordre qu'il a créé, les Dominicains, et Dominicains qui ont été chargés, on vient de l'entendre, de l'Inquisition. C'est ce qui explique aussi cette légende noire qui existe sur Saint Dominique.
Oui, mais on oublie souvent de dire que ce sont les Dominicains eux-mêmes qui ont forgé cette triste légende. Parce que dès la disparition de Saint-Dominique, donc au courant du XIIIe siècle, ils ont tiré gloire du fait que le pape leur ayant confié l'Inquisition, ils ont tiré gloire du fait que leur fondateur lui-même avait eu pour mission, il avait été mandaté par un légat du pape, Arnaud Armory, en 1207, mandaté pour lutter contre l'hérésie, mais, entendons-nous bien, lutter contre l'hérésie uniquement par la parole et par l'exemple, pas par la violence.
Alors la violence, c'est l'Inquisition, les Dominicains en feront preuve plus tard quand l'Inquisition sera mise en place, mais 8 ans après la mort de Saint-Dominique. Ce qu'on ignore aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est que cet homme qui a créé son ordre, les Dominicains, en France, ou plutôt en Provence, hein, qui était pas nécessairement directement sous l'autorité du roi de France, mais cet homme est né en Espagne.
Oui, c'est un Castillan, Domingo, il faudrait l'appeler Domingo de Guzmán y Asa, du nom de son père et de sa mère. Il est né dans un village perdu de la vallée du Duero en vieille Castille, et ce sont les hasards de la vie qui l'ont amené à traverser le Languedoc dans des conditions qui sont presque presque rocambolesque d'ailleurs.
Parce que c'est pas par hasard, hein, la vocation religieuse, elle vient pas par hasard. Il l'a eu très tôt.
Il a été élevé par ses parents dans la religion, dans l'intention d'en faire un homme d'église, incontestablement.
Il devient chanoine de la cathédrale d'Osma, auprès justement d'un évêque qui s'appelait Diègue d'Arrébès, et c'est avec lui qu'il est parti, c'est quand même extraordinaire, on est au XIIIe siècle, deux fois au Danemark.
Deux fois au Danemark, c'est assez étonnant, mais au fond c'est tout simple. Le roi de Castille, Ferdinand, le roi Alphonse a envoyé l'évêque d'Osma en ambassade au Danemark pour demander la main d'une princesse danoise pour l'héritier du trône de Castille. Et le vieil évêque, Diego, a emmené avec lui le sous-prieur du chapitre cathédral d'Osma, Notre Domingo. Ils sont donc partis au Danemark, ils ont traversé le Languedoc hérétique, ils reviennent et ils disent, d'accord, la cour de Danemark est d'accord. Alors le roi dit, ben maintenant repartez chercher la fiancée. Malheureusement, quand ils sont arrivés au Danemark, elle était morte, alors ils sont revenus.
Alors, vous rappelez justement, Michel Rodberg, que c'est à l'occasion, vous venez de le dire d'ailleurs dans ses voyages, que Domingo, le futur Saint-Dominique, rencontre ceux contre lesquels il va se battre toute sa vie, les cathares. Alors, il faut peut-être rappeler quand même en quoi consistait cette religion cathare, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une sérieuse menace pour l'Église catholique.
C'était une véritable contre-Église qui s'était installée, ordonnée, hiérarchisée, au moins en ce qui concerne ce qu'on appellera plus tard le langage. Et Dominique rencontre cette hérésie en traversant le pays toulousain, donc, et on pourrait résumer le catharisme en un mot très simple, c'est un christianisme, tout au moins ce sont des gens qui se prétendent chrétiens, parce que toute leur doctrine, ils la tirent des évangiles, avec la lecture particulière qu'ils leur appliquent. Mais pour eux, il n'y a pas un Dieu unique, il y a deux créateurs. Il y a un bon créateur qui a créé les âmes, et les anges, les archanges. Et puis il y a un mauvais créateur qui a créé le monde matériel, parce que ce monde est corruptible et que le mal s'y manifeste. Donc c'est un christianisme dualiste.
Il refuse la messe, il considère que Jésus...
Alors, ils refusent la messe parce que, oui, pour eux, Dieu n'a pas pu s'incarner dans un vil corps de chair. Jésus est un ange et n'est pas Dieu incarné.
Ils détestent le Saint-Siège à Rome. Pour eux, Rome, c'est la Babylone, c'est le diable.
Enfin, l'Église, c'est la Babylone.
Et alors, l'Église, justement, avec le pape Innocent III, organise contre eux une véritable croisade, hein, contre les albigeois, très violente, avec Simon de Montfort qui va massacrer les cathares avec cette fameuse formule, hein, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Extraordinairement violente, cette croisade. Mais Dominique n'y a pas tellement participé. Il était même plutôt contre la violence, justement, de cette guerre contre les albigeois.
La vraie foi va triompher, frère Dominique.
La vraie foi ne triomphera pas, non.
Tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les siens.
Parce que Simon de Montfort a répondu à cet ordre, et parce que le vicaire du Christ lui permet de régner à Toulouse, croyez-vous que le père qui a les yeux crevés, la mère qui a vu son enfant égorgé, le frère qui a vu sa sœur éventrée, vont apprendre de nouveau à visiter la Sainte Table, à obéir à tous les commandements, et à chérir leur prêtre comme leur père bien-aimé ?
Vous avez prêché la croisade, frère Dominique.
Oui,
le referiez-vous ?
Oui ! Auriez-vous donné la terre à Simon, frère Dominique ?
Oui, et c'est pourquoi mon cœur est déchiré.
Chaque heure qui passe conduit une âme, 10 âmes, 100 âmes occitanes en enfer. Et c'est là notre honte, notre très grande honte.
Est-ce que Dominique a participé à cette croisade? Il l'approuvait, on l'a entendu, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs, Michel Rockberg, mais il en a désapprouvé la violence.
Absolument pas, il n'a pas du tout été concerné par la croisade. On a tout à fait l'impression qu'il a mené un chemin parallèle, qui s'est recoupé une fois, qui a rencontré une fois la croisade, mais tout à fait par hasard. Il s'est trouvé dans les rangs de la croisade, devant les remparts de Toulouse, tout simplement parce que les croisés assiégeaient Toulouse et que lui ne pouvait pas rentrer à Toulouse, qui était mis en interdit, tout simplement. Il s'est trouvé là. Puis aussitôt après la levée du siège de Toulouse, eh bien il est reparti dans son fief, si l'on peut dire, s'exprimer ainsi, on peut s'exprimer ainsi, son fief de Fanjeaux et du couvent de Prouille qu'il avait fondé pour des dames cathares repenties.
Oui, parce que lui, bon, avant même que la croisade se déclenche, il préfère, lui, utiliser la persuasion, les arguments contre les cathares qu'il rencontre. D'ailleurs, la croisade s'est déclenchée en 1208, 1209, et lui, avant, il a parcouru tout le Languedoc en essayant de convaincre les cathares qu'ils étaient dans les erreur, et c'était l'occasion de ce qu'on appelait des disputes. C'est assez étonnant la façon d'une espèce de joute oratoire entre des cathares et Saint-Dominique.
Tout à fait. C'est en août 1206, au retour de son second voyage au Danemark, qu'il rencontre à Montpellier les légats pontificaux, totalement désespérés de leur échec. Depuis plusieurs années, ils prêchent en Languedoc contre les hérétiques. Ils n'obtiennent absolument aucun résultat. Et Dominique, et Diègue d'ailleurs, qui est toujours à ses côtés, le vieil évêque, Diègue et Dominique leur disent, mais ce qui nous aurait étonné, c'est que vous ayez réussi. Il n'y a qu'à voir comment vous vous y prenez. Vous ne brandissez que des menaces, vous avez toujours le principe d'autorité à la bouche, vous vous promenez avec un luxe, avec des équipages somptueux. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut combattre les hérétiques sur leur propre terrain, avec les mêmes armes qu'eux, c'est-à-dire essentiellement par l'exemple et par la parole.
L'exemple, c'est déjà la pauvreté, etc. C'est vrai que l'Église de l'époque avait la réputation, justement, d'être très riche, de mal utiliser son argent, et même, pour certains de ses prêtres, d'être assez pervertis, en fait. Et c'est, là, Dominique, c'est le contre-exemple. Les cathares peuvent pas dire, bah, lui, c'est un type qui mène une vie de patachon, il est fortuné. Non, il était dépouillé de tout, Dominique.
Absolument. Je pense qu'il ne faut pas exagérer la richesse de l'Église à cette époque, surtout en Languedoc, mais elle était surtout dans une grande misère morale, intellectuelle, et souvent matérielle, en tout cas en ce qui concernait les curés de campagne. Et les cathares donnaient l'exemple, eux, de la vie évangélique, qui fut d'ailleurs une des grandes pulsions de ce Moyen-Âge des temps romans. Tout le monde, de l'intérieur de l'Église ou en dehors de l'Église, cherchait à vivre la vie évangélique, c'est-à-dire à revenir au message primitif, au message des évangiles.
Oui. Alors Dominique va créer donc les premières communautés, l'une à Prouille, qui était une communauté de femmes, je crois.
Oui, à Prouille, communauté de femmes repenties.
Oui. Et puis de femmes repenties qui étaient en fait qui ?
Des dames cathares qu'il a fait réussir par la persuasion, par la parole. Il a fait réussir à ramener à la foi catholique.
Et puis alors aussi une autre communauté à Toulouse auprès de l'évêque Foule, qui a une communauté dont il veut faire un ordre religieux nouveau, pour lequel Dominique va à Rome demander l'agrément du pape Innocent III.
Vous réussirez.
Oui,
je réussirai. Je réussirai si je ne repars pas seul.
Je réussirai si je repars avec des milliers de conquérants humbles comme je l'étais, pauvres comme je l'étais, affamés comme je l'étais, et ne voulant d'autre joie terrestre que celle de servir Dieu.
Sire Pape, j'ai raison.
Je pense qu'en effet vous avez raison, frère Dominique. Préparez les règles de cet ordre. Trouvez les armes de cette nouvelle milice et soumettez-moi votre projet. Je veux bien créer votre milice. J'y suis disposé. Mais la prédication sera pour l'instant votre seule tâche. Vous serez un ordre de frères prêcheurs.
À l'époque où Jean Santerre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, Dominique, s'en allait tout simplement.
Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Saint-Dominique.
Et c'était une sœur dominicaine, sœur sourire, dans la chanson. Dominique a eu un énorme succès, Michel Rockbert, au début des années 60. Une chanson qui ne cadre pas tellement, d'ailleurs, avec le portrait ou l'idée que l'on se fait de Dominique. Elle parle d'un homme joyeux, vous aussi d'ailleurs, alors qu'on imagine plutôt.
Oui. Les témoignages qu'on a recueillis lors du procès de canonisation en 1233, montre un homme comme les autres, si j'ose dire, c'est-à-dire un homme qui savait vivre, dont la présence, en tout cas, était tout à fait précieuse à ceux qu'il croisait. Je suis convaincu qu'il avait une aura toute particulière, qui explique d'ailleurs en grande partie son succès. Il n'y avait pas que son message intellectuel, si j'ose dire, il n'y avait pas que sa prédication. Je pense qu'il y avait le rayonnement qu'il entraînait avec lui.
Cela dit, Michel Rockbert, on ne devait pas rigoler tous les jours, hein, dans l'ordre des frères prêcheurs, les dominicains qui ont été reconnus finalement par le pape en 1217, parce que la règle des dominicains est très dure. Elle se base sur une règle qui est celle de beaucoup de moines de l'époque. C'était pas des moines, hein, il y a les dominicains, hein, mais c'était la règle de saint Augustin. Mais alors, au-delà de cette règle, il y a ce qu'on appelle le livre des coutumes, dites-vous, où vraiment on demande par exemple aux dominicains de pratiquer une extrême extrême pauvreté. Ils ne doivent avoir aucun bien matériel,
absolument,
ni argent, ni rien.
Absolument rien, comme les apôtres,
oui.
Comme saint François à la même époque d'ailleurs. Et ne rien posséder, ni or ni argent, aucun bien personnel, mendier, de quoi manger, de quoi dormir.
Ordre mendiant, c'est tout à fait nouveau, c'est exactement comme les frères mineurs de François d'Assise que
absolument.
Vous citiez, c'était tout à fait, c'est une révolution ça dans l'Église
c'est,
à l'époque.
C'est une révolution, et ce qui est une révolution secondaire en quelque sorte, c'est que contrairement à saint François d'Assise qui avait un certain mépris pour le travail, en particulier le travail intellectuel, saint François lui veut que ses frères soient à la fois pauvres et savant. Et tout ça pour lutter contre les cathares. Au fond, il est le seul catholique, je pense, à son époque, à avoir compris le message de l'hérésie. Il faut vivre la vie évangélique, mais il faut aussi être savant si on veut contrer les cathares au cours de ces fameuses disputes, de ces fameuses controverses publiques dont vous parliez tout à l'heure. Il faut être plus savant qu'eux.
Puis alors avec aussi son très la vie, toute leur vie est réglementée, la façon de se nourrir, ils ne mangeaient que très peu de choses, généralement ils vivaient donc des dons hein, des autres, de la mendicité, avec des tissus, ils s'habillaient avec des tissus ordinaires, hein, c'est la fameuse robe blanche avec le manteau à capuchon noir des dominicains, dormaient à même le sol, on leur interdisait d'avoir un matelas, je crois.
Absolument. Et songez que lorsqu'en 1217, il a dispersé la communauté toulousaine, qu'il a envoyé 7 frères à Paris pour étudier, il leur a pas donné un sou. Il a dit non, non, vous partez sur les routes, vous mendirez en cours de route. Il y en a un d'ailleurs qui s'est rebiffé. Et c'est là que frère Jean de Navarre, trouvant vraiment excessif de l'envoyer à Paris sans un sou en poche, Dominique s'est jeté à ses pieds en larmes. Et c'est d'ailleurs cet épisode à partir duquel Michelet a construit un petit peu la légende dont...
La légende noire, on a entendu tout à l'heure, oui. Alors, cela dit, la vocation quand même première de l'ordre des Dominicains reste la lutte contre l'hérésie.
Nous irons par toutes les villes, par tous les villages, par toutes les maisons et par toutes les rues. Inlassablement, chaque hérétique sera cherché par nous, trouvé par nous, jugé par nous. Nous leur apporterons l'amour et la charité, mais aussi la pénitence et le châtiment. Et les brebis galeuses qui contaminent le troupeau seront coupées du troupeau. Car il est dit dans l'Écriture, si ton œil est un objet de scandale, arrache-le. Si ton bras est un objet de scandale, coupe-le. C'est à notre ordre et à notre ordre sale, sous votre seule autorité, hors du pouvoir des princes et des prélats, qu'il appartiendra d'arracher l'hérésie de la terre.
Et oui, les Dominicains sont directement placés, je crois, sous l'autorité du pape Michel Roquebert. Là, c'était un dernier extrait d'un téléfilm de Stelio Lorenzi, hein, Les Cathares. La violence quand même des propos, l'Inquisition n'existe pas, mais la violence des propos qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est authentique? Parce que vraiment, ça annonce l'Inquisition, ça.
On ne les a pas, ces propos.
Ouais.
Ils sont relatifs à la vision que l'on peut avoir de Saint-Dominique. Je le crois un peu moins violent que cela. Je pense qu'il fut un peu moins violent que cela.
Alors, on a entendu aussi la volonté qu'il exprimait d'étendre son ordre dans le monde entier. Tout de suite, vous le disiez à l'instant, il fait partir les premiers dominicains de son entourage, ceux qui étaient avec lui à Toulouse, par exemple à Paris. Mais c'est toute l'Europe qui rapidement où se construisent des couvents, hein, ce ne sont pas des monastères, des couvents dominicains.
Oui, car quand on dit, et c'est vrai, que la première action de Dominique a été contre les cathares en Languedoc, c'est plus compliqué que cela en vérité. C'est l'évêque de Toulouse, Foulque, qui s'est servi de Dominique pour prêcher contre les cathares, mais dans son diocèse. Et c'est lui qui les a beaucoup aidés, qui les a financés en particulier en leur attribuant le 6e des dîmes qui revenaient aux églises du diocèse de Toulouse. Et c'est lui qui a donné l'idée à Dominique d'aller faire reconnaître son entreprise, cette maison religieuse qu'il avait fondée, de la faire reconnaître comme un ordre religieux. Ça a pris 2 années. Et lorsque Dominique, revenant de Rome avec en poche, si j'ose dire, la confirmation, la reconnaissance pontificale, revient à Toulouse, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pour parler vulgairement, il plante Foulque et la croisade de Simon de Montfort et il s'en va évangéliser ailleurs.
Oui. arrivant à Paris.
Sa vocation était d'évangélisation universelle, incontestablement.
Ils vont à Paris, ils s'installent rue Saint-Jacques, un couvent qui est devenu beaucoup plus tard, ironie de l'histoire, l'endroit où se réunissaient les Jacobins, quand ils en ont chassé justement les Dominicains. On les retrouve à Madrid, en Allemagne, en Suède, en Irlande, au Maroc, partout, même du vivant de Dominique, et puis même après, je crois qu'au début du XIVe siècle, il y avait déjà 15 000 Dominicains, dans 550 couvents. Comment expliquer ce succès européen, mondial des Dominicains?
C'était très astucieux. Ce succès vient de l'idée géniale qu'a eu Dominique de faire des prêcheurs savants. Or, Paris était la capitale intellectuelle de l'Europe pour la théologie. Et Bologne pour le droit, Paris pour la théologie. Que fait Dominique quand il veut disperser ses frères? Il en envoie une partie à Bologne, une partie à Paris. Ils vont étudier, ils vont devenir à leur tour professeurs. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va venir de l'Europe entière assister aux cours. On s'agrège, on entre dans l'ordre des prêcheurs, on assiste aux cours, on devient professeur. Et on repart chez soi et on crée un couvent qui, à son tour, va attirer des gens qui, eux-mêmes, partiront encore plus loin. Vous voyez, cette espèce de toile d'araignée que, très intelligemment, Dominique et ses frères ont su tisser sur l'ordre. Mais en quelques années, c'était foudroyant. Il a fallu deux ans, pour que vraiment l'implantation de l'ordre soit déjà européenne.
Et notamment, vous avez cité Bologne, Michel Robert, c'est en Italie du Nord, effectivement, que Dominique va passer les dernières années de sa vie, à Bologne, où il meurt en août 1221, et 12 ans à peine avant d'être canonisé. Alors, pour être un saint, il faut avoir bien entendu une vie exemplaire comme celle que décrivaient les contemporains de Saint-Dominique, la revue de texte du XIIIe siècle, Stéphanie Duncan.
Oui, les chroniqueurs du Moyen-Âge rédigent avec amour la légende dorée de Saint-Dominique. Sa vie est présentée comme celle d'un saint exemplaire, placé depuis sa conception jusqu'à sa mort et même au-delà sous le signe du surnaturel. Avant même de le concevoir, sa mère eut une vision, raconte Jourdain de Saxe. Elle portait en son sein un petit chien qui tenait dans sa gueule une torche enflammée et qui, une fois sortie de son ventre, sembla embraser le monde entier. Cela présageait, dit-il, qu'elle allait concevoir un grand prédicateur qui, par les aboiements de la science sacrée, les aboiements, réveillerait les âmes assoupies dans le péché, répandant sur le monde entier le feu que le Seigneur Jésus était venu apporter sur terre. Alors, le prédicateur Dominique aura en effet une grande force de conviction face aux hérétiques, rapporte un autre chroniqueur. L'ennemi, dit-il, en entendant les supplications ardentes de Dominique, était frappé de stupeur et n'avait plus la force de résister. Alors pendant son enfance, parce que ça ne suffit pas à faire de lui un saint, pendant son enfance, ses parents l'instruisent, nous dit-on, avant tout dans la discipline ecclésiastique, afin qu'il fût imbibé d'un tel parfum de sainteté qu'il ne pourra jamais en être abandonné. On apprend aussi qu'il eut une précoce horreur des choses de la chair. Et comme tout saint qui se respecte, saint Dominique accomplit des miracles plus incroyables les uns que les autres, comme cette histoire racontée par Cécile, une sœur dominicaine de Rome. Sœur Bona, du couvent, avait une grave maladie. Sa poitrine et ses seins grouillaient de verre. Si l'un d'eux tombait, elle le ramassait et le remettait en place. Dominique la pria un jour de lui montrer son infirmité. Elle ouvrit donc sa tunique et lui montra ses seins, fourmillant en effet de verre. Dominique lui donna l'absolution, la bénit d'un signe de croix et partit. Aussitôt, les seins remplis de verre se détachèrent de sa poitrine. De nouveaux seins se formèrent, comme ceux d'une jeune fille. Quand Dominique revint, elle put lui montrer ses seins dans toute leur jeunesse et leur santé retrouvée. Incroyable, Alors, dernier signe qui ne trompe pas sur la sainteté de Dominique, sa mort. En effet, après sa mort, raconte le chroniqueur Jacques de Voragine, son corps étant resté sous terre pendant un long espace de temps et les miracles qui s'opéraient à chaque instant devenant de plus en plus nombreux, sa sainteté était devenue évidente. Alors, la piété des fidèles les porta à transporter son corps dans un lieu plus élevé. Et quand on eut soulevé la pierre et ouvert le tombeau, il s'en échappa une odeur tellement suave que c'était à croire qu'on n'avait pas ouvert un tombeau, mais une chambre pleine d'aromates. C'est ce qu'on appelle mourir en odeur de sainteté.
C'est une anecdote que vous racontez à la fin de votre livre, Michel Rocbert. Effectivement, le fait que je crois qu'il était nécessaire quand on avait canonisé un saint, on ouvrait son tombeau, il fallait que ça sente bon, c'est ça?
Bien sûr, il fallait que ça sente bon. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense qu'on devait bourrer le cercueil d'aromates au moment de l'inhumation.
Un commentaire sur ces textes pieux.
Vous venez de lire sur le miracle de Bruna, la recluse de Rome, est absolument extraordinaire. Et ça pourrait résumer tout ce qu'on peut dire sur Dominique. Il y a une autre version que celle que vous venez de lire à propos de la vermine. Il y a une version qui dit qu'il demande à Bruna, la recluse couverte de verre, de lui donner un verre. Elle lui donne un verre et au moment où il le prend, il se change en diamant.
Ouais.
Dominique, c'était l'homme qui changeait la vermine en diamant. Je pense qu'on ne peut pas mieux symboliser, on ne peut pas mieux exprimer l'aura qui l'accompagnait.
Ouais, c'est quand même aussi l'homme qui a créé un ordre qu'on va utiliser ensuite, on l'a rappelé au début, pour l'Inquisition. Parmi les dominicains qui se sont rendus célèbres, il y en a deux qui se sont rendus tristement célèbres. Il y a Savonarole à Florence qui a pourchassé ensuite les Florentins qu'il jugeait trop débauchés. Et puis alors, il y a quand même Torquemada. C'est-à-dire le grand maître de l'Inquisition.
À un moment où l'Inquisition est devenue une sorte de d'instrument de pouvoir absolu entre les mains des rois catholiques.
Alors c'est-à-dire il y a quelques autres grands noms. Hein. Il y a Thomas d'Aquin, il y a Lacordaire beaucoup plus tard. Il y a même Yves Congard qui a été un des artisans de Vatican II. L'ordre des Dominicains a duré jusqu'à maintenant.
Ben, il existe toujours. Et surtout, ce qui est important, c'est que Dominique, comme Saint François de son côté d'ailleurs, Dominique de Guzman a créé un modèle de religieux, le modèle du religieux savant. Bien sûr, ce n'est plus l'ordre mendiant au sens fort du terme, au sens où il était au XIIIe siècle, mais il est resté chez les dominicains cette notion de religieux savant. Il y a de grands théologiens, de grands savants parmi les dominicains.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont joué un rôle dans la disparition de l'hérésie cathare que vous connaissez bien? Vous avez écrit beaucoup de livres sur les cathares, Michel Rocbert.
Ah oui, absolument. Pas en tant que dominicain. Pas en tant qu'héritier du message de Dominique, mais en tant que savant utilisé par la papauté pour combattre les cathares et pour convertir. Il ne faut pas oublier que la mission première de l'inquisiteur, c'est pas de brûler, hein, bien entendu, c'est de convaincre. C'est d'essayer de convaincre. C'est pourquoi le pape a voulu donner cette mission, confier cette mission à des gens qui étaient de savants théologiens.
Merci Michel Rocbert. Je rappelle donc, pour en savoir plus, que vous êtes l'auteur de Saint-Dominique, la légende noire, un livre qui vient d'être publié chez Perrin. Vous êtes également l'auteur donc des Cathares, un livre publié également chez Perrin et disponible en poche dans la nouvelle collection Timpus. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm de Stelio Lorenzi, tourné en 1966, Les Cathares, un téléfilm édité chez INA Productions. Vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor, Alain Derrigade, documentation Claire Tesser et Claire Destacan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, une affaire terrifiante au début du XVIIe siècle, les possédés de Loudun. Mais tout de suite à 14h30, si vous vous sentez possédé par le démon, une solution, l'exorciste de France Inter, Chris.